Et après cette petite pause musicale, retour au petit déj contact avec les questions des participants.
J'ai une question par rapport aux candidatures libres. Je me demandais s'il faut arriver avec une idée déjà de projet ou c'est bien juste pour un premier contact de dire on est intéressé, parler de ce qu'on fait, mais pas forcément avec une idée. Qu'est-ce qui est le mieux
Moi, ce que je pense, c'est qu'en général, bon, candidature libre, ça va être basé sur en général un ou deux papiers finalement qui nous ont plu, ou alors c'est quelqu'un qui vous a parlé d'un labo, ça peut être différent. Mais si c'est sur des résultats scientifiques qui vous plaisent, en règle générale, vous allez prendre les articles les plus récents du labo, et les avoir un peu en tête, et c'est sympa d'avoir une idée, quelque chose d'un peu accrocheur par rapport à ça, c'est-à-dire d'envoyer un mail en disant voilà, j'ai vu votre dernier article sur tel sujet, moi je travaille sur ça. Donc soit c'est vraiment le même domaine, soit c'est quelque chose de complémentaire à ce domaine-là. Mmh. Et moi, ça m'intéresserait de travailler là-dessus. Est-ce que vous travaillez là-dessus à l'heure actuelle, par exemple? Ça peut être typiquement un super moyen d'entamer la discussion. Parce que si vous arrivez juste en disant « j'adore ce que vous faites, est-ce qu'il y aurait une place pour moi ?» Bon, après, peut-être que justement, après, la personne, bon, elle va vous demander votre CV, voir que ça correspond, et puis effectivement, elle a besoin, et puis voilà. Mais je pense que c'est plus déjà c'est plus enrichissant de démarrer déjà avec quelque chose de concret, quoi.
Ouais, ouais. Mais le truc, c'est que dans notre métier, je pense, moi, par exemple, je sais pas écrire une lettre de motivation. Et j'estime que j'ai pas savoir le faire parce que, on a un CV, quoi. C'est parlant, c'est comme ça. Le truc, c'est que je pense que tu peux pas arriver avec un sujet quand tu contactes quelqu'un. C'est que la thématique te plaît, vous plaît ou que voilà, donc vous dites voilà, ça me plaît, c'est une chose. Après, la personne en face, elle peut ne pas vous répondre ou elle peut, comme beaucoup de labos, chercher des postdocs et dire ok. Maintenant, je pense qu'il faut montrer plus une motivation de dire voilà, c'est votre labo qui m'intéresse, je veux venir. Parce qu'ils ne sont pas bêtes en face, ils savent très bien que les mecs viennent de loin, quoi. Et que déjà, le fait de faire la démarche de venir à l'étranger, c'est quelque chose d'assez important. Maintenant, c'est pas un boulot où on vend pas des bagnoles, c'est un boulot où la personne avec qui on va travailler, on va rester des heures et des heures chaque jour. Donc je pense que la personne en face, elle est pareille, c'est-à-dire que même les patrons ont dit, on cherche quelqu'un de bon, ok, mais on cherche quelqu'un de sympa aussi. C'est-à-dire que votre lettre de motivation, ça va être l'entretien avec la personne, c'est comment on va se sentir. Alors que, pour vendre des voitures, ils s'en foutent un peu. Hein. Est-ce que vous savez faire le boulot? Oui, non, allez-y, faites-le. Là, c'est pas vrai. Des rapports humains sont beaucoup plus forts dans notre métier que dans d'autres boulots, en fait. Donc, candidature libre, je suis pas certain qu'il faille à chaque fois demander. Il faut avoir un peu de chance. Il faut montrer que, quitte à renvoyer des emails, dit, bon, voilà, ok, ça fait 4 fois que je vous demande, mais maintenant, vous me répondez. Oui ou non? Alors, déjà, c'est bien ça.
C'est super important. Ouais. Ça, c'est que les personnes que vous allez contacter, déjà les responsables de labo américains en général, vous avez 9 chances sur 10 que le premier email ne le voit même pas. Bah ouais. Okay, donc, s'ils ne répondent pas à l'email, ça ne veut rien dire. Effectivement, il ne faut pas hésiter à renvoyer plein de fois parce qu'ils sont débordés, etc. Et ce ne sera pas pris comme du harcèlement. Quoi. D'accord. Et maintenant, quand je parlais de motivation, je pense que Franck a raison. Le but du jeu, ce n'est pas d'envoyer une motivation, mais c'est au moins de montrer que vous savez ce sur quoi ils travaillent. Quoi. Ouais. C'est que ce ne soit pas genre un truc type que vous ayez pu me faire un mailing comme ça à 200 labos. Quoi. Okay. Donc c'est ne serait-ce que dire ouais, j'aime cette partie de votre travail, quoi. Même si vous n'êtes pas là pour déjà balancer une idée, j'aimerais faire ci, faire ça, quoi.
C'est une première étape. Après, c'est laissez-moi l'opportunité de éventuellement soit de téléphoner, soit de venir vous voir s'il y a un meeting ou un truc comme ça. Donc je vous dis, l'idéal, c'est d'aller à un meeting dans une ville et puis vous contacter des labos ou carrément des gens qui vont au meeting et vous prenez rendez-vous lors du meeting. Moi, je me souviens avoir vu un futur potentiel chef de postdoc à un meeting. On a loupé la première conférence pour discuter au petit déjeuner. Voilà quoi.
Merci. Bah justement, juste pour revenir à ces trucs-là, au niveau du timing, justement, quand postuler, à quel moment, la dernière année, après la soutenance?
Eh ben, ça dépend. Le salaire de thèse s'arrête, plomb, et voilà. Donc je sais que maintenant, ça se fait de moins en moins. Bon, moi, à mon époque, ça s'arrêtait et après, on était au chômage, quoi. Alors que maintenant, je sais que à l'IGM où je travaille, les mecs ils restent plusieurs mois encore après le postdoc, donc je suppose qu'on a des bourses de transition, des trucs comme ça. Moi, j'ai commencé à chercher tranquille pendant que j'ai commencé à rédiger ma thèse. Donc j'ai rédigé pendant 3 mois, voilà, donc un mois plein et 2 mois un peu tranquille. Et là, j'ai commencé à envoyer des demandes en France, puisque j'étais déjà là-bas, moi. Mais je pense que c'est pas mal, quoi, pendant la rédaction. Mais c'est sûr que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai quand même 2 grands moments de solitude dans ma vie. J'ai eu, après mon master de recherche, après mon DEA, où là, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. C'était vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, tout ça. Et puis en troisième année de thèse, franchement, elle est dure. Cette troisième année de thèse, elle est hard parce qu'on doit faire des choix aussi compliqués. Et c'est un tournant où on est un petit peu dans l'aveugle. Et là, c'est vrai que c'est quand même plus sympa de passer sa thèse et de la finir en sachant que on a un endroit où aller travailler. Voilà. Moi, j'avais besoin une fois, parce que je sais pas si vous avez eu votre thèse ou pas, mais on travaille comme des fous. Et puis le mec, il fait voilà, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare docteur 2. Super. Tout ça pour ça, quoi. Donc là, au moins, mais c'est bête, mais moi, j'avais besoin d'une reconnaissance. Ils vont pas juste me dire ça. Maintenant, apparemment, on a une médaille, quoi. Mais aux États-Unis, c'est incroyable. Ils font une fête de fous furieux, quoi, pour un truc comme ça. Et donc, c'est pas vrai. Moi, j'ai besoin de quelque chose, quoi. Donc, j'ai déposé ma thèse à différents concours et j'ai gagné le concours Grémy 2003. Ils m'ont donné 4000 euros et un truc comme ça. Donc, voilà.
Et t'as pu faire la fête. Hein.
Ouais.
C'est cool.
Voilà, moi je pense que, de toute façon, même pendant votre thèse, vous avez déjà des contacts avec des gens à qui vous collaborez, par exemple. Ouais. Donc, par contre, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'ai plein d'exemples comme ça. Il faut couper le cordon avec le labo de thèse. Et il y a plein de labos de thèse, si ça se passe bien, qui vont avoir du mal à vous lâcher. Et si ça se passe mal, non, ils ne vont pas avoir de mal. Mais si ça se passe bien, ils vont dire, voilà, j'ai un copain, on va continuer à bosser ensemble. Non, il faut vraiment faire un truc. Alors, soit vous décidez d'être dans la même thématique, c'est votre choix, c'est un risque à prendre. Ça peut être très bien si après votre labo vous soutient. Mais moi, j'ai décidé de couper le cordon complètement avec mon labo de thèse. Et c'était une bonne chose parce que par la suite, je suis revenu un petit peu avec d'autres trucs. Mais ça, faut faire attention. Par exemple, quand j'ai fini ma thèse, ma chef m'a proposé de faire un postdoc dans le labo qui était voisin de son labo à Pasteur. Et je sentais mal le truc, quoi. Je sentais que c'était juste une histoire pour continuer à bosser avec moi, ce qui était très sympa, quoi. Mais dans ce milieu, il faut absolument changer de... Vous allez voir, il faut changer de technique. Si on part à l'étranger aussi travailler, c'est parce que vous avez beau savoir pas mal de choses, il y a toujours de nouvelles techniques qui vont passer à côté, et des choses comme ça. Donc, couper le cordon, ça, c'est important.
Ouais. Par rapport à choisir ce... Quand est-ce qu'on doit commencer pour les démarches pour trouver un postdoc ? Je pense qu'il y a aussi une question d'opportunité, justement. Le fait, comme dit Franck, de rencontrer des gens à un congrès, c'est quand même le meilleur moyen de trouver une niche remplie de gens qui travaillent dans votre domaine et où on peut postuler. Donc déjà, c'est vraiment une chance et je pense que ça devrait être indispensable de pouvoir aller à un congrès quand on est en thèse, au moins pratiquement un par an ou même au moins un gros congrès international. Et là, franchement, c'est l'occasion, quoi. Il faut envoyer des mails avant, harceler les gens en disant « moi, je vais être à tel congrès, est-ce que vous aurez 5 minutes ?» Et même s'ils ne répondent pas, les gens, ils ont leur nom écrit dessus, quoi. Vous présentez, serrez la main, trouvez 5 minutes. Et après, même s'ils ne vous accordent pas du temps, ce qui est génial après, c'est que si vous les recontactez, que ce soit par mail ou par téléphone, vous pouvez dire « oui, vous savez, on s'est vu au congrès, machin, quoi. Ok ?» Même s'il ne se souvient pas de vous, quoi.
Je dirais même, le rendez-vous par téléphone ou par email avant, c'est bien, mais même sur place, allez-y, quoi. Allez voir le mec et excusez-moi, voilà, je m'appelle machin, je travaille là-dessus. Est-ce qu'on peut discuter ? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit non.
Alors, l'idéal, c'est si vous avez un poster après quelque chose que vous présentez, c'est super moyen, vous le montrez, vous voyez ce que vous faites. Parce que c'est aussi ça, je pense qu'on se sent à l'aise pour aller voir les gens quand on a déjà quelque chose de concret, de toute façon. Donc après, tout dépend. Bon, après, il y a des gens, dès le milieu de thèse, ils ont déjà un papier. Il y a des gens, ça va être plus long. Mais même sans avoir quelque chose de publié, quand on est rendu en fin de deuxième année, c'est quand même vaut mieux avoir déjà quelque chose un peu de concret, quoi. Ok, donc qui peut être présenté sous forme d'un poster ou même une présentation PowerPoint que vous baladez avec vous pour présenter. Voilà, moi je travaille là-dessus, quoi. Donc c'est pas forcément dire voilà, je vais apporter une idée géniale dont le labo a besoin. C'est que je vais laisser quelque chose, une image, un souvenir, quelque chose de concret à la personne qui va avoir une idée de ce sur quoi je travaille et des techniques que j'utilise. Je voulais revenir là-dessus aussi, quand Franck disait, je pense, de couper le lien avec couper le cordon avec le labo, je pense que c'est important, si c'est certain. Mais après, par rapport à la thématique, je pense que c'est très varié, quoi. Ce qui est important, comme dit Franck, c'est, je pense, de profiter le plus possible. Dès qu'on a l'occasion d'apprendre une nouvelle technique, il faut le faire. Ça, je pense, c'est bien. Même si ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser au quotidien, mais même... De pouvoir voir comment ça marche. Enfin, faut rester, mais bon, en général, quand on fait de la recherche, on est assez curieux, quoi. C'est un peu le principe, quoi.
Il y a quand même un truc très important. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un choix. Est-ce que vous voulez, par exemple, bosser toujours, n'importe quoi, sur les yeux, et vous faites toujours des post-docs, depuis le début, vous travaillez sur une thématique particulière, ou alors vous voulez changer, et, comme moi, un peu toucher à tout. Alors, on peut toucher à tout, mais il faut toujours qu'il y ait une ligne directive. C'est-à-dire que, après, moi, pour les concours CNRS, INSERM, INRA et maître de conférence, quand vous racontez que vous avez 8 minutes pour raconter votre carrière, il faut qu'il y ait véritablement un truc qui coule de source, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de l'immuno sur des pathogènes. Alors voilà, j'ai dit, voilà, c'est de l'immuno sur des pathogènes. Même s'il y avait de la biomol, même s'il y avait des trucs comme ça, c'était comme une histoire. Si on commence à bosser sur la reproduction des chats, et après on travaille sur Parkinson, et après on travaille sur un truc sur les plantes et sur le tabac, là, il y a un problème. Franchement, il y a un problème.
Et ça, c'est typiquement en France qu'on va trouver qu'il y a un problème. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, où on veut qu'il y ait quelque chose de très linéaire par rapport à ça. Mais ouais. Je pense que, de toute façon, Franck a raison, une ligne conductrice, ça aide quand même. Et je pense que globalement, ça va être quand même très rare de travailler sur des sujets complètement différents. Ou ça peut arriver au début d'une thèse où, je sais pas, on démarre sur un truc qui marche vraiment pas, on va raccrocher sur un autre sujet, mais en général, ce sera pas dans un domaine de compétences complètement différent. Moi, pour ma part, j'ai toujours fait donc de l'immunologie, mais j'ai travaillé sur des trucs complètement différents. Au début, j'ai travaillé sur donc des modèles de moutons pour des essais de vaccins vétérinaires. Pendant mon post-doc, j'ai travaillé sur le cancer, en fait. Et là, maintenant, je travaille sur la salive des tiques. Ok, donc ça peut paraître quand même très différent, non, tout
c'est
ça.
Un poste, tu peux faire n'importe quoi.
Voilà, voilà. Non, mais officiellement, je travaille là-dessus.
N'empêche que des maîtres de conférences qui sont ici à Montpellier, qui ont travaillé sur, qui ont fait de la bougie marine, puis bougie moléculaire, puis immunologie, ils peuvent. Lui te dit, je peux pas être professeur d'université parce que j'ai une carrière trop chaotique d'un point de vue des thématiques. Donc ça c'est.
Ouais. Après, c'est moi, je pense que en général, on est obligé de se spécialiser à un moment sur quelque chose, parce que justement, la recherche, pour être compétitif sur quelque chose, faut être vraiment pointu sur son domaine. Mais après, si dès le départ en thèse, on bosse sur un truc qu'on trouve vraiment vraiment passionnant, faut pas forcément se forcer à faire un truc différent, quoi. Si vraiment ça vous plaît, bah tant mieux, quoi. Après, ce qui est sympa en voyant des trucs différents, c'est qu'après, on peut dire tiens, bah finalement, c'est quand même cette partie-là que je connaissais pas, que je trouve vraiment, vraiment sympa, quoi.
À savoir que votre spécialité, c'est quoi ? À l'heure actuelle, vous pensez être spécialiste de quelque chose, de votre sujet de thèse, mais pour le monde scientifique, votre spécialité, ça sera votre post-doc. Vous allez faire un post-doc sur un sujet, et ça sera ça, votre spécialité, et pas votre thèse. Sauf ouais, si...
C'est vrai que c'est un peu la carte de visite après.
Voilà, voilà. Sauf si c'est un truc, c'est une thématique qui est idéale, qui est comparable. Moi, personnellement, je vous conseille de changer de thématique, parce que... Comme les labos, au moins, vous allez voir ce que... Moi, j'ai fait la bougie moléculaire en post-doc, j'ai détesté. Mais au moins, je sais la faire. Donc, voilà. Bon, mais au bout de 3 mois, le mec fait « Bon, on voit bien que toi, c'est pas ton truc, la bougie moléculaire. Moi, qu'on met de l'eau dans de l'eau, ça m'intéresse pas. Moi, je veux voir les trucs. Hein. Je veux voir les cellules, je veux voir comment ça marche, etc. » Mais au moins, voilà, j'ai vu le truc, j'ai vu que ça me pesait pas trop, et que voilà. Donc, mais... Voilà, moi je vous conseille de changer, et puis si possible dans les faiblesses. Hein. Si je ne sais pas.
Je sais pas si j'irai jusque là. Enfin, après, il y a une question de, je sais pas. Enfin, faut que, enfin, un truc qui plaît aussi, parce que maintenant je dirais à l'heure actuelle, l'idée c'est de je sais pas, on est à l'ère d'internet, tout ça. Enfin, on collabore avec les gens, on est connecté, quoi. Si vous voulez avancer dans un domaine mais que vous maîtrisez pas ou qui est pas votre passion, vous allez toujours trouver quelqu'un pour vous aider à faire cette partie-là, si vous en avez besoin pour votre projet, quoi. Faut pas. Moi, j'ai toujours travaillé sur les premières cellules qui rencontrent les pathogènes, qui rencontrent les microbes. Et finalement, j'ai toujours gardé ce lien dans tous les projets. Que ce soit essayer les vaccins vétérinaires, je regardais l'impact du vaccin sur les premières cellules qui allaient activer les défenses de l'organisme. Quand j'ai travaillé contre le cancer, j'ai essayé de comprendre pourquoi ces cellules, elles n'étaient pas capables de combattre les cellules cancéreuses. Et là, je vous ai dit que je travaillais sur la salive des tiques. Pourquoi ? Parce que les tiques transmettent des maladies, des virus, des bactéries. Et dans leur salive, ils produisent des choses qui vont justement altérer nos cellules de défense. Donc finalement, j'ai travaillé sur la même chose. Donc selon comment je présente mon sujet, je peux très bien le présenter en disant « Regardez, j'ai toujours travaillé sur la même chose, quoi. » Okay. Mais simplement, j'ai vu des univers très différents et ça a permis de voir, de faire des opinions sur des domaines de recherche différents, quoi.
Est-ce qu'il y a une durée minimum pour vous pour faire un postdoc, pour faire un postdoc ?
Ouais, c'est une très bonne question. Alors en fait, de toute façon, quel est l'objectif ? Il faut se fixer un objectif au départ du postdoc, quoi. Donc en règle générale, l'objectif c'est quoi ? C'est d'avoir au moins un article. C'est-à-dire que aux yeux extérieurs, la seule preuve qu'un postdoc a été efficace, c'est de ramener au moins un article. C'est pas une preuve. Et en premier auteur.
C'est pas une preuve, c'est le seul moyen de valider ce que vous avez fait, c'est ça. Sinon, vous n'avez rien fait, quoi. C'est terrible.
Non, mais après, faut nuancer. Après, disons que le truc, c'est que dans la situation idéale, on fait un postdoc et on arrive à décrocher un poste après qui plaît. Mais souvent, maintenant, à l'heure actuelle, on va faire plusieurs postdocs.
Ouais.
Okay.
La petite donc, actuelle, c'est un gros papier, un poste. Voilà.
Mais le truc, c'est que concrètement, en un an, on ne peut pas avoir un travail qui aboutit. À moins d'arriver sur quelque chose de déjà vraiment lancé, de collaborer avec quelqu'un, mais c'est vraiment, enfin, c'est une situation particulière. Je dirais que c'est le minimum, c'est 2 ans. Et là, c'est très dur. Mais concrètement, c'est 3-4 ans. Quoi. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'au bout de 3-4 ans, en règle générale, si ça marche bien, vous n'allez pas avoir un papier. Vous allez avoir votre papier, le vôtre, celui où vous êtes premier auteur, si tout va bien. Mais en général, vous allez avoir collaboré avec plein de gens. Et vous allez pouvoir être cité peut-être dans 2-3 autres articles où vous ne serez pas premier auteur, mais ça va vous ramener un petit bagage d'expérience. Quoi. Ça va gonfler le CV.
C'est comme en thèse, hein. Les papiers, ils n'arrivent pas au début, ils arrivent tous en même temps quasiment, sur la fin. Hein. Donc pendant un an en galère, un an et demi en galère, et puis après, voilà, quoi. Ça commence à arriver. Quoi.
Et s'il y a quand même un ou deux messages moi, que je voulais faire passer, c'est le fait de je sais pas, enfin, pas être parano, mais avoir une certaine prudence. Je dirais dans essayer de conserver ses idées dans le sens où c'est très bien d'interagir avec les gens pour avancer, mais il faut être réaliste, la recherche à l'heure actuelle, elle irait beaucoup plus vite s'il n'y avait pas cette pression de publier pour avoir de l'argent pour bosser, etc. Quoi. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait 10 labos dans le monde qui bossent exactement sur la même chose? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, franchement, si on voulait vraiment faire avancer les choses, on travaillerait tous, si on était à Disneyland, quoi, dans un monde meilleur. Tout sur des sujets différents, s'entraiderait et tout. Enfin voilà, mais bon, ok, on sait très bien que c'est pas comme ça. Donc aussi, c'est très fréquent, je dirais, d'avoir de la compétition, je dirais, involontaire. C'est-à-dire, on va donner gratuitement des idées ou même avancer, et on va se retrouver à se faire piquer soit ses idées ou pire que ça, parfois pas être premier auteur sur un article où on a fait tout le boulot, quoi.
Ah oui, ça c'est important en effet. C'est concret ça. Vous allez dans un labo, vous décidez avec le labo, ok, on va bosser ensemble. Bon, c'est autant vous que eux qui décident. Hein. Et là, il y a des questions à poser. Et parmi les questions à poser, c'est voilà, au niveau des papiers, comment ça se passe? Et chaque papier a une chaque labo a une politique. Et le mec, il vous dira voilà, ça se passe comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et vous êtes d'accord ou pas d'accord? Mais ça, il faut absolument régler ça tout de suite, parce que ce qui peut se passer, c'est vous avez bossé, vous estimez que vous devriez être premier auteur, vous retrouvez troisième auteur. Vous savez que vous êtes troisième auteur parce qu'on vous en a parlé, et puis ça vous mine, et puis les mois passent, et c'est terrible. Au moins, il faut être clair. Donc le mec vous dit, ben voilà, c'est ta thématique, cet article c'est comme ça, ou vous partagez avec une personne, ou voilà, je sais pas, peu importe. Nous, on avait une politique, c'était on faisait un boulot assez contraignant de préparation des cellules, et le matin, tous les matins, c'était tous les thésards qui bossaient ensemble pour un des thésards. Donc le lundi, ils bossaient tous pour moi, le mardi, on bossait tous pour quelqu'un d'autre. Donc on grattait les cellules, etc., etc. Et l'après-midi, le thésard pouvait faire sa manip. Donc si vous voulez, tout le monde participait un petit peu au dur labeur. Donc à la fin, on avait tous nos noms en co-auteur sur les papiers des autres thésards. C'est qu'on s'est retrouvés, mais on s'est retrouvés quand même avec 13 papiers à la fin. Mais j'avais que 2 premiers auteurs. C'est ça qui compte, hein. Finalement, les co-auteurs, on s'en fout un peu. Hein. C'est juste un nom sur... voilà, quoi. Une ligne sur le CV, quoi. Mais il y a d'autres labos qui disent non, c'est... Il n'y a que 2 personnes, la personne qui fait le travail, et les autres, c'est des remerciements, quoi. Donc, c'est à vous de décider ça. Et ça, c'est pour votre bien, hein. Sinon...
Et ce qu'il y a de bien, c'est que... Bon, je suis désolé, on va revenir aux États-Unis, parce que c'est l'expérience qu'on a. C'est pas du tout péjoratif de parler de ce genre de choses. Tout comme parler d'argent, ouais, de rémunération, c'est tout à fait naturel, ça se fait. La limite, ça va être choquant pour la personne d'en face que vous ne posiez pas la question. OK ? Donc, c'est tout à fait sain d'en parler, quoi. Donc, il ne faut pas se sentir gêné. Bon, évidemment, ça ne va pas être le premier truc. Bonjour, est-ce que je serai premier article sur le sujet ? Voilà, OK. Non, mais c'est tout à fait naturel d'en parler, quoi.
Et commencez pas par bonjour comme je suis payé non plus. Voilà. Par contre, il y a des trucs intéressants, concrètement aussi. Est-ce que le labo paye la sécurité sociale ? Des choses comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est une fois que vous avez décidé que le labo était le labo de votre labo de choix, vous posez des questions comme ça. Et quelles sont... Parce que je sais que là où j'étais, on nous donnait... Enfin, le labo payait l'assurance sociale. Et ça, c'est énorme. C'est l'ordre de $300 par mois.
C'est clair. Mais bon, après, quand vous en êtes rendu à ce stade-là, surtout, n'hésitez pas à contacter des gens qui ont déjà fait des post-docs et tout, voilà, là-bas, pour avoir les astuces et ce genre de trucs, quoi. Pour pas...
Après, dans les autres pays européens, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour ce genre de choses, quoi. Mais, alors, autre chose également, oui, vous travaillez... Alors, moi, c'était particulier. J'ai une bourre de thèse. Après, j'ai eu un complément. Alors, pour la petite histoire, pendant un an, j'ai vraiment vécu très mal. Parce qu'à l'époque, moi, ma bourse MRT, c'était n'a pas été réévaluée depuis 1984. Donc, j'étais payé 900 euros. Bon, maintenant, ils sont montés à 2000 et quelques. Hein, mais, enfin, 1000 et quelques. Et 900 euros, c'était à peu près... Et donc, quand je suis allé, le dollar était très fort. Donc, c'était à peu près mon loyer. Voilà, quoi. Donc, franchement, j'ai souffert. C'est-à-dire que j'ai eu faim, quoi. Mais c'était ma première année où j'étais, où j'étais payé, j'avais un salaire, et que mes parents n'avaient pas à me donner du pognon. Donc, par fierté, je n'ai pas demandé d'argent à mes parents. Et j'avais un stagiaire de maîtrise, et le mec, il était payé 1 500 $, quoi, un truc comme ça. Et c'est pas normal que mon stagiaire soit payé 3 fois plus que moi, quasiment. Et je suis allé à mon patron américain, et je lui ai dit, mais j'ai beaucoup de mal à faire cette démarche. Parce que c'était un truc tabou pour nous, quoi. Je suis arrivé, et je lui ai dit, voilà, je suis payé que 900 euros, et j'arrive pas à vivre. Je lui ai dit, vous êtes payé ça en France ? C'est tout ? Il fait, mais vous faites 8 ans d'études, vous êtes payé un truc comme ça. Je paye même pas ma femme de ménage, ce prix-là, quoi. Et il m'a donné un complément de salaire. Donc après, ça allait beaucoup mieux, quoi. Donc ça c'est important quand même.
Après, je trouve que c'est particulier dans le sens où normalement, dans la plupart des grands instituts, il y a des grilles de salaire de toute façon.
Mes grilles sont larges.
Donc ils vont pouvoir compléter, si vous arrivez avec un financement, compléter pour être à hauteur de, ou vous payez à hauteur de. Donc normalement, c'est pour ça aussi ce qui fait qu'en France, on est capable de payer dans la même entreprise 10 personnes pour le même poste à des salaires différents. Pourquoi ? Ouais. Parce que les gens n'osent pas parler entre eux de leur salaire, quoi. Tandis qu'aux États-Unis, puisque tout le monde parle librement de son salaire, on ne se fera pas arnaquer à être payé 10 fois moins cher que celui qui fait le même boulot, quoi. Ok, donc normalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça.
Il y a des grilles avec des fourchettes monumentales. C'est-à-dire que ça peut passer de 1 500 $ à 10 000 $ pour un technicien. Mais il faut que ça soit justifié. Mais je me souviens, dans le labo où je suis allé, il y a un technicien qui est arrivé, qui a dit, voilà, moi, je vais être payé tant, c'est un salaire très très élevé, mais je m'engage à gérer tous les autres techniciens. Donc, là, mon patron fait, ok, on va essayer pendant 2 mois. Et puis ça s'est bien passé, donc il a continué le truc. Mais c'est très facile. Quand j'ai eu ma thèse, le lendemain, mon labo américain m'a doublé mon salaire, sans que je demande. C'est comme ça. C'est, bon, on est plus intelligent une fois qu'on a sa thèse. Donc, on est payé plus, quoi. Mais parler salaire, c'est vous demandez combien est-ce qu'on est payé. Et si vous estimez que c'est pas assez, vous allez voir et vous dites, voilà, moi, j'estime que c'est pas assez. J'ai du mal à m'en sortir alors que j'ai un appartement très quelconque, etc. Donc, voilà. Après, maintenant, si vous foutez rien, allez pas demander non plus.
Ouais, mais enfin, vous y allez pas là-bas pour ça. Mais le truc, c'est effectivement, c'est pas forcément d'y aller pour s'enrichir. C'est pas l'idée. Mais d'au moins avoir une bonne condition de pour vivre et pouvoir travailler. Quoi, sinon...
Je veux dire, c'est pas ça. C'est que par rapport à l'Europe, vous ne cotisez pas pour le chômage. D'accord ? Là-bas. Donc, alors que si vous faites un postdoc à l'étranger, en Allemagne ou en Suisse, et que vous rentrez en France, éventuellement, si vous ne trouvez rien, vous pouvez avoir le chômage. Parce que voilà, vous avez cotisé dans l'Union européenne. Aux US, c'est même pas la peine d'y penser. Donc moi, je vous conseille, si vous partez à l'étranger comme ça, dans les pays comme les États-Unis, de mettre de côté pour rentrer, si vous voulez rentrer éventuellement, quoi. Donc ça, c'est important à savoir qu'on n'a pas les mêmes règles. Autre truc très pratique, vous ne payez pas d'impôts pendant un an. Ouais, ça dépend. Pendant un an et demi, parce que il y a 2 impôts aux US, en gros de 10% chacun, comme en France. Donc on vous ampute de 20% de votre salaire. Je ne sais plus lequel c'est. Il y en a un qui est de l'État et l'autre qui est national. Et en fait, il y en a un, c'est 2 ans. Donc, à partir du moment où vous arrivez jusqu'à 2 ans après. Et l'autre, c'est 2 ans, mais 2 ans, qu'on appelle ça. C'est-à-dire que si vous arrivez le 15 décembre, votre première année, ça sera 15 jours. C'est 2 ans du 1er janvier au 1er janvier. D'accord ? Donc, finalement, voilà, c'est pas 2 ans... Donc ça, c'est donc la première année, c'est chouette, hein, de faire un postdoc là-bas au niveau. Et puis après, bah, on vous en met 20%, c'est pas mal, 20% sur un salaire.
On va interrompre un petit peu cette session de questions pour écouter une petite pause musicale et on revient pour les dernières questions.